Cette première photo illustre le Seigneur qui met une barrière aux forces des ténèbres. Alors, à la Salette, la Vierge, en 1846, avait donné cette prophétie au petit berger: les mauvais livres abonderont. Stephen King, que certains connaissent, qui est un auteur de thriller extrêmement connu et traduit dans beaucoup de langues, dit: Harry Potter, j'adore, il prépare les jeunes à lire mes livres. Alors voilà un peu la littérature de Stephen King, Sagdos. Vous voyez un certain nombre de sélections de ses livres, Salem Slot, Les sorcières de Salem, enfin on est dans l'univers de la magie. L'année du loup-garou de Stephen King, paru chez Albin Michel. Anatomie de l'horreur. Alors, cette initiation d'Harry Potter, qui est présentée comme quelque chose de ludique, Harry Potter et l'ordre des ténèbres, finalement nous introduit dans un monde de l'occultisme et de la magie. L'ordre du phénix, nous verrons tout à l'heure que le phénix est un animal qui est symbolique dans l'alchimie. Toute la famille, toute la société doit être imprégnée de ces idées, jusqu'à ce qu'une des fans d'Harry Potter dit: Jo Rowling, qui est donc l'auteur d'Harry Potter, is God, est Dieu. Alors en Chine, jusqu'en Chine, c'est traduit en chinois, en japonais, en Afrique, tous les continents, vous voyez, reçoivent cette même littérature et ces mêmes films. En Inde, alors ça, à chaque fois, vous voyez, il y a toute une animation autour de la sortie des livres ou des films, avec des enfants qui attendent l'heure de la parution de leur nouvel Harry Potter, qui est parfois distribué à minuit dans les librairies. Alors vous voyez l'engouement que ça peut susciter. Et jusque dans les écoles, eh bien, on va retrouver les ustensiles de magie d'Harry Potter. C'était dans l'école de garderie de l'école primaire de Saint-Jean-de-la-Lande à Montréal. Donc même nos écoles catholiques sont imprégnées par Harry Potter. Or, Harry Potter n'est pas une lecture innocente. Ce n'est pas une série chrétienne. Ce n'est pas non plus un conte moderne. C'est un manuel d'initiation à la sorcellerie, et nous essaierons de le prouver avec ce qui va suivre. Ce sont d'anciens sorciers qui le disent. Un instrument de promotion du mouvement occultiste et un miroir du monde réel, un modèle du nouvel ordre, l'ordre des ténèbres. Vous voyez, sur cette diapo, on voit un loup qui est déguisé en agneau. Et c'est aussi le signe et le symbole d'une société secrète. Alors nous allons essayer de décrypter ensemble. Une des grandes prêtresses, nous en avons parlé lors de la première rencontre, une des grandes prêtresses du New Age est la théosophe Blavatsky. Elena Blavatsky, elle a été celle qui a théorisé finalement ce qui est devenu le New Age, et elle appartient à tous les milieux occultes et théosophes. Eh bien, nous allons la retrouver dans Harry Potter avec simplement une inversion des lettres V et B, et elle deviendra Cassandra Blavatsky. Et voilà ce que dit Blavatsky, que le monde entier, sans distinction de race ni de classe, pratique l'occultisme. Et précisément, vous voyez, dans toutes les cultures, eh bien, Harry Potter va pénétrer. Réel et virtuel. Vous avez à droite un vrai mage et vous voyez des enfants à gauche qui s'exercent à cette magie et à cet occultisme. Nous revoyons Blavatsky, son rêve se réalise et ceux qui ne sont pas magiciens, ceux qui ne sont pas initiés, voilà à quoi il ressemble dans Harry Potter. C'est la famille des Dursley. Bien sûr, si tes parents sont comme l'horrible famille de Harry Potter, ce ne sera pas facile. Voilà, c'est ce que dit Patricia Telesco, une sorcière pratiquante, à ses jeunes lecteurs. Les parents qui interdisent Harry Potter sous leur toit deviennent comme les Dursley, des moldus. Les moldus, c'est le nom des personnes qui ne sont qui ne sont pas initiées à la magie et à la sorcellerie. Donc les Dursley qui sont présentés comme cruels et ridicules. Alors, nous voyons progressivement cette initiation va se faire entre Harry Potter et puis son alter ego, mais dans le domaine du mal, qui s'appelle Voldemort. En fait, nous sommes dans une initiation implicite à la magie noire. Magie noire, rituel de sang, possession, vampirisme, manipulation mentale, horreur et sexe. Des chiffres et des gestes. Au tome 4, nous avons un tournoi, le tournoi des trois sorciers, où il y a trois tâches à accomplir, ayant toutes lieu un 24 du mois. Nous sommes en magie et en occultisme toujours à jouer avec le symbole des chiffres qui veulent dire quelque chose de caché derrière. Or, 2 plus 4 de 24 donne 6 multiplié par 3, vous avez le chiffre 666 qui est caché derrière. Weasley, Wizard, Wiz, c'est la boutique des farces et attrapes. Et nous retrouvons ces 3 W qui veulent dire 666. Nous allons le découvrir, le WWW et le 666, puisque la lettre hébraïque ou arabe Vav a comme nombre le 6. Et quiconque se connecte en âme et conscience se connecte ainsi au 666. C'est Nicola Bonal qui le dit sur Internet, la nouvelle voie initiatique. Et vous voyez cette lettre hébraïque qui est la 6e, donc après Yod, Tet. Après, qui a une valeur numérique, Vav. On lit de droite à gauche. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav. Ça fait partie, effectivement, de la Kabbale. C'est une toute petite partie de la Kabbale juive. Nicolas Flamel, le célèbre alchimiste, a célébré récemment son 665e anniversaire, nous dit le premier tome d'Harry Potter. 665 est écrit en lettres, non en chiffres. Or, Nicolas Flamel est né en 1330 et il aurait eu exactement 666 ans en 1996, année où fut présenté aux éditeurs le premier livre de Harry Potter. Donc, il faut vraiment creuser la question pour se rendre compte des phases symboliques au niveau des chiffres qu'il peut y avoir derrière. Alors, vous voyez ce WWW, on le retrouve dans certaines agences, hein, comme Rocky Mountain Height, voilà, caché, mais qui est, alors, et puis bien entendu, c'est tiré de ce passage de l'Apocalypse où il est dit que chaque personne sera marquée par le chiffre de la bête et nul ne pourra acheter ni vendre s'il ne possède le chiffre de la bête. Alors, vous voyez cette discussion-là, en général, on nous traite d'aveugles, de bigots, et on n'a rien compris quand on commence à essayer d'expliquer la face cachée des choses. Vous voyez que les éditions, enfin Walt Disney, et puis toute cette grande industrie du film, nous montrent un certain nombre de films qui sont à la gloire de sociétés initiatiques, et notamment dans ce film qui s'appelle Benjamin Gate en français, eh bien, nous avons donc une gloire de la franc-maçonnerie. Exaltation. On retrouve dans la littérature, bien entendu, tout ce travail de la littérature contemporaine et de particulièrement depuis les années 1960, où un certain nombre de séries nous parlent de magie, d'initiation à l'occultisme ou d'alchimie. L'apprenti sorcier, c'est aussi un film que j'ai pu voir, c'est une véritable initiation également au monde de la magie noire. Le dernier Templier aussi, hein, vous voyez, avec Nicolas Cage, est aussi toute une exaltation des ordres initiatiques occultes. Même dans les petits livres pour enfants, vous voyez, qui s'appellent Witch, on a une perspective de sorcellerie. Avec le grand livre des tests, découvre qui tu es, ou pour mieux vivre avec les autres. Idée magique sans idée magique pour t'entendre avec tes frères et sœurs, ou sans idée magique pour comprendre les parents. Mais on est vraiment là dans des perspectives et dans des anthropologies qui sont loin de notre foi chrétienne. Donc depuis les années 60, c'est ce que je vous disais, les groupes magiques se sont multipliés et le nombre des sorciers pratiquants est monté en flèche. Une véritable explosion de livres sur divers aspects de la magie créée et soutenue toute une nouvelle industrie de l'édition occulte. Enfin, à l'aube du XXIe siècle, la sorcellerie, une fois de plus, gagne la faveur du public avec la sortie des livres et des films de Harry Potter. Alors, cela fait exploser tout ce qui avait trait à la sorcellerie. Vous voyez, donc là, nous sommes à un musée de la sorcellerie des sorcières de Salem, 60 000 visiteurs en octobre 2010. Et puis, des prix sorcières ont fleuri un peu partout. L'Association des bibliothécaires de France s'y est mis aussi. Une remise de prix a eu lieu sur ce thème des sorcières au Salon du Livre de Paris. Solvay et Coagula, ça c'est gros mot, si vous voulez, de l'occultisme, mais également donc de l'alchimie. Détruire pour rebâtir. Cette Vierge de Notre-Dame de la Salette. Les gouvernements civils, a-t-elle prophétisé, auront tous un même dessein, qui sera d'abolir et de faire disparaître tout principe religieux pour faire place au matérialisme, à l'athéisme, au spiritisme et à toutes sortes de vices. Remplacer une idéologie par une autre. Détruire, solver, ridiculiser les valeurs chrétiennes dans les cœurs et les esprits, et rebâtir, Coagula, exalter les contre-valeurs païennes, ésotériques et maçonniques. Vous voyez cette affiche, où on voit le Christ avec un pistolet et un poignard dans l'autre main. Donc, on assiste à une monumentale transformation psychologique, et ça, un peu à bas bruit, sans qu'on s'en soit très inquiété ni alerté. Par tous les moyens d'influence possibles. Les mauvais livres abonderont. Mauvais livres, mauvais films, mauvais jeux. Moyens d'influence considérables sur notre jeunesse. Déjà avec les Beatles, nous avions une perspective tout à fait particulière. Voilà ce que disaient les Beatles. Le rock, c'est plus que de la musique. C'est le centre énergétique d'une nouvelle culture et d'une révolution mondiale. Nous verrons plus tard pourquoi les Beatles, pourquoi s'appellent-ils comme cela. Mick Jagger, aussi un des grands chantres de cette musique avec les Rolling Stones, était un sataniste déclaré. On le retrouve proche de Levet, celui qui a écrit la Bible satanique. Nous travaillons toujours, dit-il, à diriger la pensée et la volonté du public, et la plupart des autres groupes en font autant. Donc, ils ont véritablement, derrière leur parole, leur musique, une volonté d'asservissement de leur public. Vous avez là Lucas, qui est un grand réalisateur de films, puisque c'est le réalisateur de La Guerre des Étoiles. Et La Guerre des Étoiles, eh bien, ça a été une véritable folie hein, de la plupart des jeunes qui ont été très friand des films de Lucas. Voilà ce qu'il dit. « J'ai mis la force dans mes films, dans l'intention d'éveiller chez les jeunes un certain genre de spiritualité. » Et nous verrons de quelle spiritualité il s'agit. Dans cette perspective, Dieu est un immense bassin d'énergie et il n'y a pas de bien ni de mal. Bien entendu, on croit à la réincarnation. Alanis Morissette a écrit toute cette transposition hein, de cette spiritualité, conversation avec Dieu pour adolescents, et comme toujours, eh bien, c'est un livre que les parents à l'esprit fermé n'aimeront pas, donc achetez-le. Il y a une volonté subversive derrière toute cette littérature. Or, la magie, qui est présentée parfois comme étant bonne, cette magie blanche n'existe pas. Sataniste et exorciste l'affirment. Donc les bons sorciers n'existent pas non plus. Vous voyez, un des premiers Rose-Croix, humaniste, 1592-1666, c'est Comenius. Je l'ai laissé là parce que je suis allé en Hongrie la semaine dernière. La plus grande université de Hongrie, à Budapest, s'appelle l'université Comenius. Or, Comenius est Rose-Croix, kabbaliste, et a une intention particulière lui aussi, c'est d'instaurer une dictature d'initiés par l'éducation. Alors, les associations Comenius ont fleuri dans toute l'Europe. Développer la dimension interculturelle dans la formation des futurs enseignants en Europe, elle allie dans cette formation savoir, savoir-faire et savoir-être, mais en ne reposant plus du tout sur une anthropologie chrétienne et encore moins sur une croyance en la révélation. Il s'agit d'un savoir que l'on se crée et que l'on se transmet en soi-même et par soi-même. Aller à la jeunesse et, si c'est possible, jusqu'à l'enfance. Instruction de la haute vente, la franc-maçonnerie est souvent bien derrière un certain nombre de ces perspectives. Scolastique étant la maison d'édition une des plus importantes en direction des jeunes aux États-Unis. Elle atteint plus de 32 millions d'enfants par an. Or, beaucoup de ces titres aujourd'hui sont des titres occultes. Harry Potter en fait partie. Les lectures qui sont proposées et qui sont obligatoires à l'école, combien il y a de jeunes aujourd'hui qui n'ont eu de livres dans leurs mains que ceux d'Harry Potter? Eh bien, enseigner aux jeunes les bases de l'occultisme en déguisant cet enseignement en conte moderne, voilà un certain nombre de livres qui sont proposés à l'école. Je vous fais grâce de tous ces titres qui sont proposés, mais vous voyez, on peut trouver « The Dark is Rising », donc à 11 ans, Will Stanton découvre qu'il est le dernier descendant d'une lignée de mages. Comme Harry Potter, il apprend la bonne magie pour libérer le monde des forces du mal. Jusqu'à Twilight, qui a été aussi une grande très alléchant pour en particulier les jeunes filles qui se sont délectées de Twilight avec les vampires. Eh bien, l'Institut supérieur d'éducation du mal existe. Otto Malpens, mauvais pensant, 13 ans, entre donc au Hive, une ruche, et nous avons là une véritable initiation absolument invraisemblable, d'initiation au crime. Il apprend, après avoir commis un meurtre éclatant, il apprend à perfectionner ses talents pour devenir un super vilain professionnel. Ce n'est pas que de la littérature. On retrouve dans tous ces livres-là, effectivement, tout ce que l'on va retrouver dans Harry Potter. Vous voyez, on est souvent obnubilé par la face immergée de l'iceberg. On va essayer d'aller voir la trame qui est en dessous, subliminale, la face immergée de l'iceberg. On considère que cette littérature est comme un loisir. Or, en fait, il y a derrière un enseignement qui est aussi une propagande. On la considère comme distrayante alors qu'elle peut avoir une valeur didactique. La surface est horizontale, visible, distrayante, mais l'arrière-fond est subliminal, invisible, didactique. Elle nous propose une vision du monde ésotérique et parodique à l'endroit de la révélation chrétienne. Elle cherche avant tout, cette littérature et ces films, à tromper la censure de l'Église et des parents, à faire des allusions scandaleuses en toute impunité, à enseigner la sorcellerie aux jeunes sous le nez des adultes sans qu'ils s'en rendent compte. Deux lectures du même texte, un ordinaire et l'arrière-fond ésotérique. Alors nous avons le blason ici de Harry Potter avec Hogwarts. Alors là, il y a toute une signification extrêmement profonde en anglais de Hogwarts, qui est un Hogwarts Hog. Quand on intervertit les deux termes, c'est un sanglier qui a quatre verrues, exactement comme les quatre verrues, enfin comme les quatre faces que l'on va retrouver dans l'écusson d'Harry Potter. Alors vous voyez, cet écusson, il est en quatre éléments. Vous avez, ça va être autant de groupes dans cette école d'initiation à la magie, et donc il y a quatre groupes. Il y en a un, c'est Gryffondor, avec un lion qui correspond au feu, serpentard à la terre, pouf souffle à l'eau et serre d'aigle à l'air. Les quaternaires superposés, donc nous avons les quatre éléments, quatre pierres précieuses, quatre points cardinaux, quatre vertus cardinales, quatre tempéraments. On retrouve ça aussi dans une scolastique classique. Cependant, il y a tout un arrière-plan avec Dumbledore, qui est le maître de la magie, avec Harry à votre gauche et Voldemort, son alter ego, force du mal, à droite, avec le phénix au centre. Nous avons donc là les trois personnages principaux qui vont nous introduire dans ces films d'Harry Potter, dans ces littératures et dans ces films d'Harry Potter, avec Dumbledore qui est le père, Harry le fils et Voldemort qui représente l'esprit et l'esprit du mal. Et puis cet arrière-fond hermétique avec Hermès qui serait Dumbledore, le serpent Yang qui représenterait Harry Potter, les serpents Yin, vous voyez hein, les serpents entrelacés de ce caducé d'Hermès Trismégiste que l'on retrouve dans la littérature occulte. Et puis également, donc, un arrière-plan aussi que l'on peut retrouver en franc-maçonnerie avec le vénérable qui serait Dumbledore, le jeune maître Harry et le maître Voldemort. Alors vous voyez, donc, sur le plan chrétien, nous avons un Dumbledore qui est Dieu le Père. Sur le plan alchimique, ce serait Hermès et vénérable au niveau maçonnique. Harry Potter représente d'une certaine manière le Christ, et on verra par la suite pourquoi. Il représente le serpent, mais là, il y a une petite interversion, puisqu'il est plutôt Yang que Yin, apprenti, compagnon, jeune maître. Voilà. Et donc, Voldemort représente Satan, et l'esprit moins que saint. On va retrouver aussi, hein, donc, est-ce que c'est juste un roman ? On va retrouver dans Da Vinci Code de Dan Brown une même problématique aussi, hein, où on retrouve ces arrière-fronts ésotériques et occultes. Est-ce que c'est un jeu simplement, comme les planches de Ouija, hein, qui est un instrument de divination et de communication avec les forces occultes et médiumniques ? Est-ce que c'est inspiré d'une histoire vraie, ou c'est simplement une chanson, comme on peut retrouver dans ces films et dans ces disques de Marilyn Manson qui chante Antéchrist Superstar. Vous avez aussi Batman. Est-ce que c'est juste un film ? Le conte classique, la sorcière n'est jamais l'héroïne d'un conte classique. Jamais elle est l'héroïne. Au contraire, c'est celle que l'on va combattre. Donc il n'y a pas de danger d'imitation des sorciers dans les contes classiques. L'ordre moral est respecté, le monde imaginaire est inaccessible. Et les personnages sont plus grands et plus beaux que nature. Les héros des contes sont des princes, des princesses, qui sont plus beaux que nature et que l'on cherche à imiter de tout son cœur. Les histoires fictives ont des effets concrets, parfois catastrophiques, parce que les jeunes n'ont presque plus que de mauvais modèles aujourd'hui à imiter. D'anciens sorciers disent que Harry Potter, c'est de la sorcellerie réelle présentée sous une enveloppe fictive. Les sorciers acclament aujourd'hui Harry Potter. Les anciens occultismes y reconnaissent ce qu'ils faisaient dans leur secte. Les écoles de magie sont débordées. Il y a beaucoup d'écoles de magie qui se sont implantées depuis Harry Potter. Il suffit de cliquer « école de sorciers » sur Internet, vous seriez surpris. La participation au festival occulte connaît une énorme croissance. Alors, vous voyez, il y a une assimilation entre ce qui se passe quand on est dans le virtuel, où on apprend par exemple à piloter un avion dans un cockpit virtuel installé au sol, recrée au plus près possible de la réalité toutes les conditions du vol possible. Et l'élève pilote, plongé dans ce milieu artificiel, acquiert progressivement des réflexes réels et peut enfin, au bout d'un certain nombre d'heures de pratique, prendre les commandes d'un avion. Eh bien, le simulateur est un milieu artificiel, mais les réflexes sont réels. Harry Potter, le cadre est fictif, mais le contenu est réel. Alors, on va voir les personnages réels qui sont cités dans Harry Potter. Et vous avez Nicolas Flamel, dont on a parlé tout à l'heure, ce grand alchimiste du Moyen-Âge et qui fait l'objet aussi de parutions de nouveaux livres. Nicolas Flamel aurait trouvé la pierre philosophale et serait grâce à elle devenu immortel. On n'a plus besoin d'un rédempteur, on n'a plus besoin du Christ sauveur. Michael Scott est un grand, il a trouvé le filon avec l'alchimiste et il relate par le menu toutes les opérations de Nicolas Flamel. Alors vous voyez hein, les titres de Michael Scott, hein, c'est La sorcière et le livre des magies celtiques. Cornelius Agrippa est aussi cité dans Harry Potter. C'est un kabbaliste, auteur de la philosophie occulte. On va retrouver Paracelse, occultiste, alchimiste et kabbaliste, qui garde son nom également dans Harry Potter. Et puis, on voit ce personnage étonnant du 19e siècle, Eliphas Lévy, mage, kabbaliste et franc-maçon, dont les ouvrages sont retraduits, enfin réédités périodiquement, et qui s'appelle dans Harry Potter Eliphas Dodge. Eliphas Lévy, dans Dogmes et rituels de haute magie, dit « Il est extrêmement dangereux de se jouer des mystères de la magie. Il est surtout souverainement téméraire d'en pratiquer les rites par curiosité et par essai. » Il sait de quoi il parle. Les curieux qui se mêlent d'évocation ou de magnétisme occulte ressemblent à des enfants qui joueraient avec du feu près d'un baril de poudre. Ils seront tôt ou tard victimes de quelques terribles explosions. Vous avez John Dee aussi qu'on va retrouver dans les histoires de la croisée des mondes de Philippe Pullman. Elena Blavatsky, nous la retrouvons parce qu'elle est vraiment une des clés et une grande prêtresse de cette théosophie au XIXe siècle, sur laquelle beaucoup de personnes aujourd'hui reposent. Elena Blavatsky, franc-maçon, antichrétienne virulente et fondatrice de la société théosophique, marraine, comme vous le voyez, du Nouvel Âge. Eh bien, elle va se transformer, comme on l'a vu tout à l'heure, par Cassandra Blavatsky. Et l'objectif de Blavatsky, c'est répandre cet enseignement de la gnose, connaissance secrète par la diffusion de l'occultisme. Nous avons aussi tous les ingrédients de l'alchimie dans Harry Potter. Voilà ce que dit Rowling, l'auteur d'Harry Potter elle-même. « Je n'ai jamais voulu être sorcière, mais alchimiste. Pour inventer ce monde de sorciers, j'ai appris une énorme quantité de choses sur l'alchimie. » Alchimie et sorcier, voilà les ingrédients d'Harry Potter. Au tome 7, Dumbledore est médaille d'or à la conférence internationale des alchimistes au Caire. Donc l'alchimie, c'est la transmutation des métaux grossiers en or incorruptible, transformation aussi intérieure de l'homme mortel en homme immortel, visée éminemment spirituelle, mais en se passant de Dieu. Alors, c'est cette pierre philosophale qu'il faut essayer de retrouver ou de recréer. Eh bien, toutes les 7 volumes d'Harry Potter correspondent à cette malle, aux 7 serrures, et chaque fois qu'Harry Potter rouvrait la malle, chaque fois son contenu changeait. C'est une malle magique. 7 opérations, qui sont autant de livres d'Harry Potter et qui correspondent au rituel de haute magie. 7 années d'études pour arriver, 7 serrures, 7e étage, tout est symbolique à l'école des sorciers. Et la pierre philosophale. Alors, je vais arrêter quelques secondes. Sur ce Paolo Coelho, parce que c'était un livre qui était donné aux communions solennelles ou aux professions de foi autrefois. Je ne sais pas, tout le monde a entendu parler de ce Coelho, et je ne sais pas si vous avez lu réellement cette histoire-là. Ce n'est pas le Petit Prince du tout, c'est véritablement aussi une initiation. Je vous en livre quelques passages tout à fait choisis. L'âme du monde se nourrit du bonheur des gens, ou du malheur, de l'envie, de la jalousie. Accomplir sa légende personnelle est la seule unique obligation des hommes. Tout n'est qu'une seule chose, et quand tu veux quelque chose, tout l'univers conspire à te permettre de réaliser ton désir. Nous sommes exactement avec Coelho dans la pensée magique. Il dit par ailleurs, il savait que n'importe quelle chose à la surface de la Terre peut conter l'histoire de toutes les choses. En ouvrant un livre à une page quelconque, en examinant les mains d'une personne, ou le vol des oiseaux, ou encore des cartes à jouer, ou que quoi que ce soit, chacun peut découvrir un lien avec ce qu'il est en train de vivre. Nous sommes là dans une exaltation de toutes les mancies. À la vérité, les choses ne révélaient rien par elles-mêmes, c'était les gens qui, en observant les choses, découvraient la façon de pénétrer l'âme du monde. On est là dans une spiritualité totalement laïque et dénuée de toute relation à la transcendance. Et puis aussi, cette vie antérieure que l'on retrouve là-dedans, il y a l'alchimie pour que chaque homme cherche son trésor et le trouve et veuille ensuite être meilleur qu'il n'a été dans une vie antérieure. Et le jeune homme se plongea dans l'âme du monde et vit que l'âme du monde faisait partie de l'âme de Dieu et vit que l'âme de Dieu était sa propre âme. Nous sommes là dans un mélange total avec cet alchimiste de Coelho. Je vous signale qu'il a écrit aussi le Pèlerin de Compostelle, qui est un itinéraire également initiatique. Harry éprouvait avant le rituel d'entrée, et vous allez voir ce cheminement aussi alchimique dans Harry Potter au tome 1, Harry éprouvait une sensation bizarre, comme si ses jambes s'étaient soudain changées en plomb. Après le rituel, il eut de nouveau l'impression d'avoir des jambes en plomb. Vous savez que l'alchimiste va transformer le plomb en or. Eh bien, au tome 7, c'est-à-dire à l'ultime tome, une fois que Harry Potter est initié, lorsque Harry jeta ses cheveux dans le liquide pareil à de la boue, la potion se mit à écumer et à fumer, puis tout à coup, elle prit une couleur d'or brillante et transparente. Vous voyez, nous sommes rentrés dans un processus rituel d'alchimie. Donc on va essayer de voir cette table d'émeraude et les processus alchimiques que l'on peut retrouver dans Harry Potter, mais dans bien des littératures pour enfants. Dans les aventures d'Harry Potter, il n'y a qu'un genre de verre, le verre émeraude. Alors on va essayer de voir qu'est-ce que c'est que l'émeraude dans la tradition magique et ésotérique. Vous voyez, les couleurs sont vert émeraude et nous avons cette pierre d'émeraude qui est la pierre de la connaissance secrète ésotérique. Alors tenez-vous bien, cette pierre-là, c'est la matière du Graal, pierre verte tombée du front de Lucifer lors de sa chute. Alors vous voyez toutes les littératures autour de la forêt d'émeraude, par exemple. Hein ? les chevaliers d'émeraude. Sur le continent d'Enkidiev, le roi Émeraude Ier a instauré la formation d'une armée d'exception, les chevaliers d'émeraude. Ils manient magie et armes blanches avec la même dextérité et protègent les multiples royaumes qui morcellent le continent. Donc Anne Robillard, qui a écrit beaucoup dans cette littérature-là, dit « Je crois dans la magie ». Elle a écrit toute une littérature autour de ces questions-là. Voilà Anne Robillard, qui a fait aussi cette série si connue, Ange, A-N-G-E, avec Antichrist, Reptile et Perfidie. Le château d'émeraude, le magicien d'Oz avec la couleur verte émeraude derrière. Dans les jeux de vidéo, on va retrouver aussi toutes ces dynamiques de l'alchimie et de l'initiation. Diable Beau ou Diablo est un méchant alchimiste, c'est un jeu vidéo. Je ne savais pas ce que c'était, j'ai montré cette diapo à mon fils qui a 15 ans, il a tout de suite repéré que c'était un jeu vidéo extrêmement connu dans le monde des adolescents. Donc, Diablo ou Diablo est un méchant alchimiste qui a vendu son âme au démon Méphisto pour prolonger sa vie. Jeu gratuit, donc sur Internet. Tomb Raider, alors les héros Tomb Raider va essayer de tuer, poursuivre un tueur en série doublé d'un alchimiste. Toute cette littérature nous passe alors là vraiment très très largement au-dessus. Hein. Nous, on se rend pas compte que c'est l'univers de bien de nos adolescents ou de nos enfants. Alors, on retrouve ça également dans les albums de musique, bien entendu. Alchimie et herbologie, toute une initiation aux plantes sacrées aussi, que l'on va retrouver dans le chamanisme. Les plantes sacrées ne sont autres que les plantes qu'on dit être entéogènes, capables de nous faire donner l'expérience de Dieu comme on l'avait vu pour le chamanisme. Le serpent de fumée se divisa instantanément en deux autres serpents qui ondulèrent et s'enroulèrent sur eux-mêmes dans la pénombre. C'est tiré de Harry Potter au tome 5. On voit ce caducée d'Hermès Trismégiste avec donc il y a un serpent qui représente en fait la vie d'Harry Potter et l'autre celle de Voldemort, comme si ces deux serpents entrelacés étaient un. Vous voyez que Rowling a comme médaillon également un serpent autour du cou. Vous voyez donc la grande lutte entre les Gryffondors et les Serpentards, les deux grandes rivalités, mais c'est les deux faces d'une même dynamique énergétique, finalement, du yin et du yang. On le verra sur les diapos suivantes. Alors, on retrouve ça partout. Vous connaissez l'histoire de... Enfin, ce sont des séries américaines du médecin, là, c'est comment il s'appelle, Dr. House, c'est ça. Oh là, vous connaissez bien. Eh bien, regardez, il est représenté en Hermès avec les deux... Voilà. Et puis, vous voyez, ce serpent est aussi la représentation de la Kundalini, hein, avec le serpent qui monte et les différents chakras que l'on va retrouver dans un ésotérisme qui nous vient de l'Orient, avec la Kundalini. Donc, il s'agit de recréer, finalement, par la force de son mental et de son initiation, une vie artificielle grâce à l'alchimie. Comme l'alchimiste va essayer de faire l'homoncule à travers ses différentes manipulations. Un homoncule aide le héros à devenir immortel. Vous voyez un petit peu ce qui nous est proposé souvent dans ce type de littérature ou de film ou de disque, de pochette de disque. Voilà la marque des ténèbres, donc du tome 4. C'est vraiment atroce. On va se marquer hein, aussi de ces choses terribles, hein, avec les scarifications, mais aussi les tatouages que l'on voit maintenant sur beaucoup de bras ou de corps de nos adolescents. Alors, nous retournons à ces quatre éléments, grands facteurs initiatiques, avec, vous voyez, cette croix qui nous dit l'initiation suprême que l'on va retrouver dans l'ésotérisme sacré. Je passe quelques photos. Alors voilà, vous reconnaissez tous ces couleurs, vous allez être étonné de les voir apparaître de manière assez prégnante et fréquente. Elles symbolisent les quatre éléments de la terre, du ciel, de l'eau et du feu. Et on va les retrouver, vous voyez. Voilà, tout simplement. Voilà. Sans commentaire, vous voyez, il est différent. Voilà. Et c'est la Eastern Star maçonnique, que l'on va retrouver avec les mêmes couleurs et la même symbolique. Eh bien, on va les retrouver donc dans le blason de l'école de Poudlard, l'école des magiciens. Sans commentaire. Vous voyez, même dans les Teletubbies, hein, vous voyez ces choses tout à fait innocentes pour les enfants. Alors bon, on est sur des archétypes, mais quand même, peut-être pas si innocents que ça. La mort, dans cette perspective initiatique, est une initiation. Et vous voyez dans cette gravure d'une initiation maçonnique, ça passe par le rituel de la mort. Et on va mourir pour rentrer à une nouvelle vie d'initié, où on va recevoir la vraie lumière, celle de la connaissance. Voilà ce que disait Nietzsche. Qu'est-ce qui est bon ? Tout ce qui augmente le sentiment de puissance, la volonté de puissance, la puissance elle-même chez l'homme, ce qui est mauvais, tout ce qui procède de la faiblesse. Eh bien voilà ce que dit Harry Potter. Il n'y a pas de bien ni de mal, il n'y a que le pouvoir et ceux qui sont trop faibles pour le rechercher. Bienvenue dans le monde sans loi. Il y a le bien, il y a le mal, et puis il y a Batman. Alors, vous voyez, ça, c'est une carte d'Harry Potter pour arriver à se repérer dans le monde magique. Hein ? Ça fait partie de, je crois, c'est le septième tome. Il faut se repérer dans un monde magique, et il y a une carte magique. Mais pour pouvoir lire cette carte, tenez-vous bien, je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. C'est à partir de ce que Harry Potter va dire solennellement qu'il va pouvoir avoir les yeux pour pouvoir regarder et décrypter cette carte. Alors vous voyez, on va retrouver toute cette ambivalence du yin et du yang, du bien et du mal, hein, que l'on retrouve bien souvent dans cette littérature. Et dans ce... Voilà. Chez Dieu, il n'y a pas de relativisme moral. Sa parole est un glaive tranchant, nous dit le livre Les Hébreux. Il y a le bien, il y a le mal, il y a ce qui est conforme à la volonté divine et ce qui ne l'est pas. C'est à l'intérieur de cet univers que se joue tout le drame humain. Dans l'univers de Dieu, il n'y a pas « tu dois, tu ne dois pas », c'est « fais ce que tu veux ». Voilà la doctrine que nous donne cette littérature. Dieu est un bassin d'énergie, il n'y a pas de bien ni de mal. Il n'y a pas donc de bon vampire ou de mauvais vampire, comme dans les livres et les films de Twilight de Stéphanie Meyer. Dans la guerre des étoiles, dont on parlait tout à l'heure avec Lucas, eh bien, il y a les bons et il y a les mauvais. Ils sont ennemis, mais à la fin de la série, ils se rendent compte qu'ils sont apparentés comme le yin et le yang, qui sont indissociables. Et précisément, l'objet de l'initiation, c'est de reconnaître la face obscure et la face qui est à la lumière de notre être. On est là dans une perspective dont nous avons parlé, je crois, la dernière fois, Jungienne, hein, où on a cette face cachée, tout est en nous, il s'agit de découvrir cette face d'ombre et cette face lumineuse pour accéder à l'initiation suprême qui est au-delà du bien et du mal. Eh bien, toutes ces doctrines sont fausses et il s'agit pour nous chrétiens de dire stop. La magie blanche n'existe pas. Les bons sorciers n'existent pas. Et la mort qui nous est présentée dans ces rituels initiatiques, eh bien, c'est une conception païenne et maçonnique de la mort. Et nous allons essayer de comprendre que les meurtres rituels, les meurtres gratuits, l'euthanasie et le refus de la mort, eh bien, se retrouvent dans ces concepts d'immortalité que l'on va retrouver dans toute cette littérature ésotérique. Alors que précisément, l'objectif de l'alchimie ou de la magie serait de vaincre la mort. Et vous voyez que le héros principal, hein, l'antagoniste d'Harry Potter, s'appelle Voldemort. La mort, c'est une grande aventure de plus. Donc on banalise la mort. This is a great adventure, ce n'est autre que Alice Bellet, qui est également théosophe du XIXe siècle, extrêmement référente dans les milieux également de la théosophie et de l'anthroposophie. Est-ce que ça fait mal mourir, dit-elle ? Non, c'est dans le tome 7 de Harry Potter. Est-ce que ça fait mal mourir ? Pas du tout, répondit Sirius. C'est plus rapide et plus facile que de tomber endormi. On relativise tout. C'est comme aller se coucher à la fin d'une très longue journée, vous est-il dit dans le tome 1. Et finalement, l'euthanasie est totalement banalisée. C'est vous qui devez me tuer, dit Severus à Harry Potter. Vous seul pouvez savoir si votre âme souffrira d'avoir aidé à mourir sans douleur et sans honte un vieillard condamné. C'est étonnant, vous voyez, combien dans cette littérature pour jeunesse, on installe déjà la prévision de ces questions très profonde de l'euthanasie. Je vous demande seulement ce grand service parce que je vais mourir. J'avoue que je préférerais une sortie rapide et indolore au lieu d'une fin pénible et prolongée, dit Dumbledore. C'est invraisemblable. Il faut lire ça dans le texte. Harry à Voldemort. Oui, Dumbledore est mort, mais ce n'est pas vous qui l'avez tué. Il a choisi la façon dont il voulait mourir des mois auparavant. Il a tout organisé avec l'homme que vous aviez pris pour votre serviteur. La mort de Dumbledore a été organisée. Personne n'est maître du jour de sa mort, nous dit l'Ecclésiaste. Nous ne sommes pas du tout dans une perspective chrétienne. Voilà, je vous montre quelques diapos concernant donc la mort du Christ. On est vraiment dans une attaque extrêmement virulente de la spiritualité chrétienne. Donc tous les symboles sont ambivalents. Saint Hippolyte disait déjà, comme le Seigneur Jésus-Christ a été annoncé dans les prophéties sous le symbole du lion en raison de sa royauté et de sa gloire, les Écritures ont annoncé également l'Antéchrist comme un lion à cause de sa cruauté et de sa violence. Car le trompeur cherche à imiter le Fils de Dieu. Le Christ est un lion. L'Antéchrist aussi est un lion. Le Christ est un roi. L'Antéchrist aussi est un roi. Le Sauveur est venu comme un agneau, Antéchrist aussi se donnera l'apparence d'un agneau, tout en étant un loup à l'intérieur. Les deux faces du lion, vous voyez, Jésus-Christ, on le désigne comme le lion de Juda. Il est vraiment celui qui a la royauté, la force et le courage. L'Antéchrist, c'est le lion rougissant, dont la violence et la cruauté est inouïe. On va retrouver dans toutes les histoires de métal et de rock satanique, toutes ces perspectives là. Vous avez Aleister Crowell, qui était un grand maître sataniste, aussi très référent dans les milieux précisément du rock satanique, et du hard rock et du métal. Alors, les références d'Harry Potter sont celtiques, ésotériques, gréco-romaines, on retrouve toute la mythologie aussi gréco-romaine, et puis elle vient aussi de l'Orient. En dessous de la devise du blason de l'école Poudlard, il y a « Ne réveille pas le serpent qui dort ». Vous avez vu le serpent de la Kundalini, le serpent de l'initiation, et précisément, toute l'initiation va être de maîtriser ce serpent. Le Léviathan devient féroce quand on l'éveille, nous dit le livre de Job. Qui peut lui résister en face? Personne sous les cieux, sous tous les cieux. Et voilà Blavatsky aussi, qui est l'initié Naga, et qui est véritablement maîtresse de toutes ces forces de l'occultisme et de l'ésotérisme. Le serpent dans la Bible, nous n'y reviendrons pas, donc est mauvais, c'est l'ennemi, le Satan, le dragon, le monstre, le destructeur, alors que dans l'ésotérisme, il est bon, c'est l'ami, c'est celui qui va nous initier, le créateur, le gardien de la gnose et des sciences divines. Le serpent nous entraîne progressivement dans l'initiation. Harry dit le texte, et le serpent se fond un clin d'œil. Donc nous assistons dans Harry à un Christ à l'envers. Et Rowling, l'auteur d'Harry Potter, dit « Pour moi, les parallèles religieux ont toujours été évidents, mais je n'ai pas voulu en parler trop ouvertement. » On peut la comprendre. Voilà. Je passe parce que autrement ça va être un petit peu long. Ah oui, alors, vous voyez, vous avez au passage des phrases comme celle-là. Même sa propre mort n'avait pas empêché Binns, le fantôme, d'enseigner. Il ne fallait donc pas s'attendre à ce qu'un événement aussi insignifiant que Noël le détourne de ses habitudes. Vous voyez le genre de phrase qui est glissée à travers une intrigue qui prend énormément. Voilà. Vous voyez, le Jésus, c'est le fils du céleste potier. Eh bien, le Harry Potter est le fils de Monsieur Potier. On va retrouver aussi, il pointa sa baguette sous la table vers les bouteilles vides qui se remplirent aussitôt. Donc tu es roi? Oui, je suis roi, dit Jean. Vous êtes l'élu? Bien sûr que je le suis. Tome 6 de Harry Potter. Vous voyez le parallèle? Jésus-Christ conduit à la croix comme un agneau mené à l'abattoir. Eh bien, voilà ce qui est dit dans Harry Potter. Harry Potter est élevé pour le sacrifice comme un porc pour l'abattoir. Jésus-Christ meurt et monte au ciel. Harry Potter meurt et monte au ciel. Jésus-Christ, il est vivant. Harry Potter, il est vivant parce qu'il a ressuscité aussi. la double nature du Christ, on va retrouver ça dans toute la dynamique hein, du griffon, qui est aussi un animal emblématique avec les doubles natures du ciel et de la terre. Je passe un petit peu. Donc vous voyez, il y a l'aspect ésotérique et parodique antichrétien. Vous allez voir aussi dans la messe, donc vous avez la consécration avec « Prenez et mangez, ceci est mon corps », eh bien, Harry Potter, que la chair du serviteur fasse revivre son maître. Et on a un parallèle aussi avec l'initiation maçonnique au 18e degré, qui est l'initiation Rose-Croix. Eh bien, on a aussi une parodie de la Sainte Messe. Prenez et mangez, donnez à manger à ceux qui ont faim. Prenez et buvez, ceci est mon sang. Et le sang de Harry, que le sang de l'ennemi ressuscite celui qui le combat. Et vous avez aussi dans le 18e grade écossais, donc en maçonnerie, prenez et buvez, donnez à boire à ceux qui ont soif. C'est impressionnant. Sur une nappe de velours noir, de gros poissons pourris s'étalaient sur des plats d'argent entre des amoncellements de gâteaux brûlés comme du charbon. Au milieu de la table, à la place d'honneur, se dressait un gigantesque gâteau en forme de pierre tombale. Nous sommes véritablement dans des inversions avec Harry Potter et on va retrouver... Vous voyez, cette inversion des symboles chrétiens. Rituel qui existe objectivement dans les messes noires. Alors, vous voyez, le Beatles dont on parlait tout à l'heure est aussi un symbole de résurrection, mais occulte. Vous voyez la fondation Wikimedia, qui représente ça, et puis nos Beatles de tout à l'heure. Nous avons aussi toute une part de rituels d'Égypte, référant à l'Égypte et à la franc-maçonnerie dans Harry Potter. La grande salle, qui est la loge en maçonnerie, eh bien, on va retrouver la grande salle, qui est l'école de Poudlard, dans les livres d'Harry Potter. Le plafond étoilé, si important aussi dans les salles, dans les temples maçonniques, eh bien, on va retrouver cela également dans Harry Potter. Et les étoiles, qui sont les chandelles, donc c'était un vocabulaire maçonnique, on avait l'impression que la salle était à ciel ouvert, salle de prière maçonnique à l'ONU. Toute la dynamique aussi du carré et de l'échiquier, nous allons passer. Aussi toute l'initiation de la pierre philosophale, de l'œil d'Horus. Cela nous entraîne aussi à tous ces initiés que nous avons eus. Quand j'étais adolescent, quand j'étais jeune, on parlait sans cesse de Carlos Castaneda. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Hein. C'était toute l'initiation d'un sorcier yaki. Qui permettait d'avoir l'initiation suprême que l'on va retrouver aujourd'hui dans le chamanisme. Et toutes ces initiations sont exaltées de manière sous-tendue et souterraine parfois dans Harry Potter. Les sauveurs sont toujours des initiés. Symbole d'initiation, on va retrouver toujours cette histoire de l'éclair. Si l'unité mondiale se réalise un jour, alors, par définition, toutes les voix dissidentes doivent être réduites au silence, converties ou supprimées. Le nouvel âge d'amour et d'harmonie se devra d'être répressif pour un certain temps afin de faire accepter sa version de la paix sur Terre. Il y a véritablement un programme derrière tout cela. Oui. Ton point de vue sur la domination du monde par les sorciers étant fondé sur le bien des moldus. Hein ? Vous avez vu, les moldus, c'est ceux qui ne sont pas initiés à la magie. Là est, je crois, le point crucial. Il est vrai que nous avons reçu du pouvoir et que ce pouvoir nous donne le droit de gouverner. Mais il nous impose aussi des devoirs à l'égard des gouvernés. Il faut bien souligner ce point, car il sera la pierre angulaire de tout notre édifice. Quand il y aura de l'opposition, comme cela ne manquera pas d'arriver, telle doit être la base de notre contre-argument. Nous prenons le pouvoir pour le plus grand bien de tous. Il s'ensuit qu'en cas de résistance, nous devrons employer la dose de force nécessaire, mais pas plus. C'est un véritable programme, c'est dans Harry Potter. Voilà. Écoutez, c'est une petite chose réconfortante de Boileau. Il n'est point de serpent ni de monstre odieux qui, par l'art initié, ne puisse plaire aux yeux. D'un pinceau délicat, l'artifice agréable du plus affreux objet fait un objet aimable. Voilà. Écoutez, je crois que après ce passage qui est un petit peu resserré, hein, j'ai essayé de condenser. C'est un petit peu parfois un peu concentré, peut-être trop, mais je crois qu'il nous reste à prier et à demander au Seigneur de nous donner la force nécessaire dans ce combat gigantesque.